Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Laurent Masiac.
Bonjour.
Je voudrais te présenter, mais je ne sais pas si je dois te présenter comme un mathématicien probabiliste ou comme un historien spécialiste de l'histoire des probabilités ou...
Je suis historien des mathématiques et spécialiste en particulier de l'histoire des probabilités au XXe siècle.
Nous allons aujourd'hui parler d'une question qui est assez intéressante, en particulier à l'Académie des sciences, c'est le comportement de l'Académie des sciences pendant la période sinistre pour notre histoire de l'occupation allemande en 40.
Je vais me concentrer surtout sur ce que j'ai côtoyé complètement par hasard, en fait, en cherchant aux Archives nationales des renseignements à propos du mathématicien Émile Borel. Et je suis tombé sur des archives qui, visiblement, n'avaient pas du tout été exploitées.
Décris-nous un peu Émile Borel, ce grand monsieur qui a beaucoup de facettes différentes.
Émile Borel est né en 1871. C'est le seul cas que je connaisse de quelqu'un qui va être nommé dans l'enseignement supérieur avant même d'avoir sa thèse. C'est aussi très vite quelqu'un qui se montre un homme de réseau. Le seul mathématicien français qui va franchir un pas énorme, à savoir qui va s'engager vers les probabilités. Il y a une sorte de damnatio memoriae sur les probabilités en France au début du XXe siècle, qui a duré un certain temps, enfin disons qui date en tout cas en France depuis disons les années 1840. Borel donc va avoir une véritable intuition, un courage scientifique en direction des probabilités. On peut dire, hein, là c'est vraiment sans exagérer, que si on s'est mis à faire des probabilités au XXe siècle en mathématiques, donc en France, c'est d'abord grâce à Borel.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do.
Borel avait quel âge en 40?
Alors Borel donc est né en 1871, donc il a 69 ans. C'est un jeune homme. En 1940, c'est les 50 ans de son entrée à l'école normale, et donc il y a un grand jubilé organisé au début de l'année 1940. Il est académicien depuis 1921. Très, très rapidement, c'est quelqu'un qui va prendre une place tout à fait éminente à l'Académie des sciences. On va demander à Borel, qui est directeur de l'Institut Henri Poincaré, de superviser l'organisation de laboratoires pour les mettre au service ou en contact de la mobilisation scientifique.
J'ai cru comprendre que pendant la guerre 14-18, il n'y avait virtuellement pas de scientifiques qui étaient pacifistes. En revanche, pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que quelques scientifiques ont pris la parole pour dire « arrêtons cette guerre » ?
I have changed my name so often, yes, I've lost my wife and children.
La première chose à dire, c'est que les deux situations n'ont rien à voir. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et le déclenchement de la Première Guerre mondiale sont dans des contextes complètement différents. Disons que l'Union sacrée, qui fait jour très rapidement en 1914, n'a pas de parallèle. D'autant plus que, évidemment, le début de la guerre, avec donc, ce qu'on appelait la drôle de guerre, en gros, il ne se passe rien en France jusqu'à mai 1940, fait que, bon, il y a une espèce d'entre-deux où, que je sache, en tout cas pour ce qui est des mathématiciens, il n'y a pas vraiment d'expression très nette. Donc il y a cette mobilisation scientifique qui se fait assez tranquillement, j'ai l'impression, qui est presque plus sur le papier qu'autre chose. Parce que, effectivement, officiellement, à partir d'octobre 1939, un certain nombre de laboratoires sont mis au service de la défense nationale. Mais j'ai eu l'impression, dans ce que j'ai vu, que c'était essentiellement donc administratif. Enfin, là où il va y avoir donc de l'action, si j'ose dire, et où Borel va être mis à contribution de manière nette, c'est donc en juin 1940, au moment où le front français est en train de s'effondrer et les Allemands approchent de Paris, il faut organiser l'évacuation, justement, d'un certain nombre de laboratoires et de matériel, dont le laboratoire, justement, de calcul de l'IHP. Et Borel, en tant que directeur de l'IHP, est appelé à, justement, superviser ça en compagnie de Louis de Broglie, donc physicien, et lui aussi est dans le conseil scientifique.
Some of them are with me out there now.
Alors juste un petit mot maintenant sur Louis de Broglie. Donc Louis de Broglie, c'est le grand physicien qui est l'un des fondateurs de la théorie quantique, qui devait être également sensible aux probabilités. Gave us shelter, kept us hidden in
the garret, then the soldier. Je suis tombé sur des archives de l'administration allemande. La première chose que j'ai pu creuser grâce à ces archives, c'est un événement tout à fait singulier de la fin de l'année 1941, à savoir l'arrestation d'un certain nombre d'académiciens, dont Émile Borel, par la Gestapo, en novembre 1941.
Pas uniquement des Juifs.
Pas du tout. Borel n'était pas juif, et même pas du tout des Juifs, en l'occurrence. Ah oui, non, aucun rapport avec des questions raciales. Les archives donc, qu'on a trouvées ne donnent pas le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire au sens où on n'a pas pu répondre à exactement pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a pas de cause parfaitement identifiée. Alors en fait, il y a un mélange de plusieurs aspects. Un aspect, c'est une sorte de guerre interne entre différents services de l'administration allemande à Paris, qui, pour ainsi dire, se tirent dans les pattes et essayent d'avoir la haute main. Une deuxième chose, bien sûr, c'est, depuis l'été 1940, l'établissement de listes des membres de l'enseignement supérieur en France, notant les personnes comme étant plus ou moins suspects.
Et qu'est-ce qu'on reprochait à Borel, alors ?
Justement, là, je ne peux pas répondre exactement à ça, mais il est clair que Borel est identifié comme quelqu'un qui, au minimum, n'a pas de sympathie pour la nouvelle situation. Alors, non seulement pas de sympathie pour les occupants, ça va sans dire, mais même, sans doute, pas de sympathie pour le régime de Vichy. Il se passe rien pour Borel, personnellement. À une nuance près, c'est qui intervient dans cette histoire, c'est qu'en novembre 1940, donc, les ennuis dans l'université française commencent, l'université est fermée. Et c'est une première arrestation de poids, disons, puisque Langevin est mis en résidence surveillée. Disons que ce moment-là est un vrai tournant, où clairement l'administration allemande a l'université, et l'université de Paris en particulier, en tout cas sous examen.
Pour revenir à Borel, donc les Allemands se présentent chez lui, peut-être au petit matin, je ne sais pas.
On a un récit de ça, hein, puis la femme donc, de Borel a écrit un livre de souvenirs, hein, et elle raconte l'arrestation de Borel. L'Allemand était chez moi, il me dit le
signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai lu dans l'article que tu as écrit une chose qui m'interpelle et peut-être que tu peux préciser que Madame Borel donc a cherché des soutiens. Tiens, auprès de la section de mathématiques de l'Académie des sciences, et elle ne les a pas eus, si j'ai bien compris.
Non, alors là, effectivement, elle a des mots assez durs dans son livre concernant l'Académie des sciences, où effectivement, on l'a envoyé promener. Quoi. On lui a fait comprendre qu'on ferait, disons, le minimum syndical pour avoir des informations, disant que, de toute façon, ils avaient les mains liées et qu'ils ne pouvaient rien faire.
Que t'as moitié vrai et à moitié faux.
C'est
quoi.
À moitié vrai et à moitié faux, comme toujours. J'ai
repris mon âme. Alors, De Broglie, il est dans cette histoire, il est au courant de tout ça.
Au moment où cette histoire arrive, De Broglie n'a pas de rôle administratif, politique, explicite. Alors, par contre, il va en avoir un comme conséquence, ou au moins conséquence indirecte de cette histoire. Très rapidement, février 1942, il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Alors, suite au décès d'Émile Picard, alors c'est là justement où arrive un impondérable, c'est qu'en décembre 1941, décède justement Émile Picard, qui est depuis fort longtemps un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences.
Pour nos auditeurs, Émile Picard est un autre grand mathématicien.
Un autre grand mathématicien de la génération d'avant. Lui aussi a fait une carrière assez fulgurante. Il y a un flottement à l'Académie pour se demander s'il est légitime d'organiser des élections. Dans la situation troublée, mais troublée aussi pour des choses dont on n'a pas parlé, c'est que, évidemment, à cause des lois de Vichy, il y a un certain nombre de membres de l'Académie des sciences qui ne siègent plus.
Dont Adamar.
Exactement. Et Adamar est le premier nom à citer parce que, évidemment, Adamar est le doyen, le successeur naturel.
Pas un trop mauvais mathématicien non plus.
Adamar est en fait exilé à Toulouse. Rapidement, va partir pour les États-Unis. Il y a des gens qui ne sont pas là aussi, pour des raisons diverses. Et au minimum, il y a une discussion pour savoir si on doit organiser des élections rapidement. C'est le mot.
Mais moi qui connais les statuts de l'Académie des sciences par cœur, je peux te dire que c'est obligé.
Ok, alors, d'ailleurs, c'est ce qui va être répondu. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant. Alors, le deuxième nom, celui qui suit Adamar, pour l'ancienneté, c'est Borel. Alors Borrell n'est plus en prison, il est resté pendant 5 semaines. Il est libéré au début décembre 1941 dans des circonstances, là aussi c'est assez mystérieuse, mais comme je disais, c'est ce qu'on a vu dans les archives, c'est la guerre entre services et quelques scientifiques allemands qui travaillent en lien avec la marine allemande ont l'air de faire pression en disant c'est peut-être une idiotie d'arrêter un certain nombre de gens, dont quelqu'un comme Borrell qui pourrait peut-être nous être utile. Enfin voilà, et on trouve ça dans les...
J'ai la France entière.
Donc il est libéré.
Donc il est libéré. Il est libéré alors en assez mauvais état, hein, de en croire, bon, 5 semaines à Fresnes dans des conditions de l'hiver 1941. Puis il y a une sorte de flottement autour de son état de santé, se demandant de toute façon s'il est en état. D'autant qu'il vient officiellement d'être à la retraite.
C'est un peu l'effet Joe Biden.
Voilà. C'est quelque chose comme ça. Finalement, donc l'autre secrétaire perpétuel, hein, Alfred Lacroix, envoie des missives disant que effectivement les statuts de l'Académie imposent une élection, donc cette élection doit avoir lieu.
Il a bien raison.
Il se trouve que Borrell est réarrêté au début février 1942. Alors là, il est arrêté juste quelques jours, 2-3 jours. On n'a trouvé absolument aucun élément pour expliquer cette arrestation. Cette nouvelle arrestation, alors, le décide définitivement de partir pour Sainte-Afrique.
Là où il est né.
Là où il est né, dont il était maire, d'ailleurs. Hein.
Donc les élections ont
lieu. Donc les élections ont lieu parce que Alfred Lacroix donc, fait pression. Mais il faut... Le ministre donne son aval. Enfin, je ne sais pas, il y a une histoire...
Il faut que le président valide.
Ou que le président valide, voilà, exactement. Alors bon, là, il n'y a pas de président. Et c'est Carcoupino qui est ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là. Alfred Lacroix a un dialogue serré avec Carcoupino pour... précipiter les élections, ou en tout cas pour les organiser de manière ferme. Lacroix donc envoie une convocation aux membres de l'Académie des sciences pour donc, que les élections aient lieu à la mi-février 1942. Sur la convocation, il met une copie des statuts, et en particulier en ce qui concerne les absents. C'est-à-dire que le fait que l'élection sera validée s'il y a, alors je ne me rappelle plus les détails, mais s'il y a une majorité, que les gens qui ne peuvent pas être présents ne doivent pas forcément être comptabilisés comme électeurs.
Un vieil homme dans un grenier.
Louis de Broglie donc est élu secrétaire perpétuel. Voilà, Borrell est à Sainte-Afrique, il n'a plus vraiment de contact avec l'Académie des sciences, que je sache. Hein. Il est retraité, il n'est pas content contre de Broglie. Alors, c'est difficile à dire ce qui se passe jusqu'à la libération, au sens où je n'ai pas trouvé de lettre de Borrell à quelqu'un d'autre, disons que ça aurait dû être lui. Voilà. L'histoire reprend à la libération, Borrell revient à Paris. Il semble effectivement qu'une des premières actions qu'il va faire en rapport avec l'Académie des sciences, c'est de demander qu'on revienne sur l'élection du secrétaire perpétuel. Il va prendre contact avec le frère de Louis de Broglie, donc Maurice de Broglie, qui est donc l'aîné de Louis de Broglie. Borrell va écrire à Alfred Lacroix, après s'être entretenu avec Maurice de Broglie, pour dire que Maurice de Broglie... n'est pas hostile à l'idée et qu'il va en parler avec son frère. Jusque-là, donc, c'était l'histoire qu'on a racontée avec Len Schaeffer. La lettre de Borrell est assez optimiste, pour ainsi dire. Je pense que ça va être une formalité. Voilà, on peut, disons, sous-entendre que c'est lui qui va avoir la place qui lui revenait. Et on était resté là-dessus. Et ce qu'on avait juste pu dire dans notre article, c'est juste on a constaté que, bah, visiblement, Borrell pensait que Louis de Broglie démissionnerait et Louis de Broglie n'a pas démissionné. Voilà, donc c'était comme ça qu'on concluait. Et donc là, il y a eu un petit miracle, disons, archivistique.
C'est... Toi qui as regardé tout ça, est-ce que du côté de Breuil ou du côté de Borrell, il y avait un peu une lutte de pouvoir, le pouvoir universitaire ou le pouvoir tout simplement humain ?
Borrell est un homme d'action. Et c'est un homme d'action, vraiment dans l'esprit du radical-socialisme du début du 19e siècle, donc où il s'agit de participer à l'éducation du peuple, à l'élévation intellectuelle et en particulier scientifique. Son entrée en politique après la Première Guerre mondiale, c'est évidemment la volonté d'agir concrètement pour créer des institutions. Hein. L'IHP, c'est une production borrélienne, de même que l'ISUP, hein, l'Institut statistique de l'Université de Paris. Louis de Broglie, bah, d'abord, il est plus jeune encore à ce moment-là, donc on pourrait dire que son ambition politique se révèle à ce moment-là. C'est un peu l'impression que j'ai.
Un peu plus opportuniste.
Il y a un opportunisme, effectivement, de saisir l'occasion.
Les Allemands l'ont pris.
Petit miracle archivistique, il y a 2 ans, quand on est allé présenter l'exposition Borel à Saint-Afrique, quelqu'un responsable de la Maison de la Mémoire nous a mis au courant de l'existence d'un fonds d'archives de Borel, inconnu, qui est arrivé par l'intermédiaire des concitoyens de Borel de Saint-Afrique, qui les avait dans son grenier. Enfin, je me rappelle plus l'histoire, une histoire un peu rocambolesque.
Enfin, une belle histoire comme les archivistes les
aiment. Voilà, histoire d'archives, exactement. Donc j'étais à Saint-Afrique donc avec Hélène Gispert, qui faisait partie de l'équipe qui avait organisé l'exposition. Et Hélène, on a été médusés devant plusieurs centaines de lettres. Des lettres qui sont toujours, je le dis quand même, de l'original est toujours à Saint-Afrique. J'avais négocié avec la Maison de la Mémoire de Saint-Afrique pour savoir s'ils étaient d'accord pour qu'il y ait des copies. Donc, il y a des copies de ces lettres que j'ai posées à l'Académie.
Elles couvrent quelle période ?
Alors, elles couvrent, disons, toute la vie matrimoniale, pour ainsi dire, de Borel. Bon, disons, la première moitié du XXe siècle, quoi.
Donc, c'est encore une époque où, quand on écrivait une lettre, on faisait un brouillon et on gardait le brouillon ?
Alors, il y a un certain nombre de minutes, effectivement, des lettres. Il y a surtout des lettres reçues. Et par Borel et sa femme, oui, éventuellement par les deux à la fois. Eh bien, il y a un certain nombre de choses qui tiennent un peu du miracle, quand même, au sens où vraiment ça apporte des informations tout à fait spectaculaires sur la vie scientifique. Mais alors, ce qu'on a trouvé aussi, c'est des échanges entre De Breuil et Borel.
De cette époque.
De cette époque, précisément, d'octobre et novembre 1944, et qui complétaient le puzzle. Notre article avec Glenn Schaeffer se concluait en disant on a juste constaté que Louis De Broglie n'a pas démissionné. On avait peut-être formulé quelques hypothèses dans l'article, mais on avait rien.
Pas voulu démissionner.
Alors exactement, non seulement qu'il n'a pas voulu, mais qu'il se justifie. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça m'a permis de compléter le puzzle. Alors, en gros, l'histoire se présente comme ça. Louis De Broglie, visiblement, parle avec son frère, hein, comme Breuil le disait à Borel. Il est un peu pris de panique. Il est d'autant plus pris de panique qu'il faut dire qu'il est, disons, c'est évidemment le moment des commissions d'épuration, hein, juste après la libération. Et Louis De Broglie est, on va dire, suspect, disons ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dossier où vraiment on identifie directement une
collaboration,
exactement, comme ça a été le cas avec Georges Claude, qui immédiatement exclut de l'Académie des sciences à la fin août 1944. Ce qui est intéressant, c'est de voir la date, quoi. C'est-à-dire que c'est au moment où la libération de Paris est vraiment consolidée que, voilà, l'Académie des sciences urgent de se réunir pour exclure Georges Claude. Louis De Broglie est suspect, ça se traduit par le fait qu'il est sous un arrêté d'interdiction d'enseigner cours à la Sorbonne. Provisoire, tant que l'enquête est menée. On est avant la rentrée universitaire, hein, donc c'est... Voilà. Il se trouve que j'ai trouvé, à la suite de ça, une lettre de De Broglie à La Croix, où il dit, oui, alors je suis dans une situation impossible, c'est parfaitement injuste, et puis Monsieur Borel essaye de me virer de ma place de secrétaire perpétuel, c'est scandaleux, j'espère que vous me soutiendrez. Enfin voilà, il y a tout un genre comme ça. Donc, je n'ai pas la réponse de La Croix, mais en tout cas, il y a une lettre que De Broglie envoie à Borel pour dire qu'il a eu cette conversation avec La Croix. Et que, finalement, La Croix l'a convaincu qu'il ne fallait pas qu'il démissionne. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que s'il démissionne, c'est quasiment, comme par rapport à la commission d'épuration, c'est quasiment comme s'il reconnaît qu'il a quelque chose à se reprocher.
C'est une forme d'aveu. Oui.
Une forme d'aveu. Donc, De Broglie dit à Borel... Bon, alors je sais que ça avait été un peu compliqué pour vous pendant l'occupation, mais enfin, pour moi, ça n'a pas été facile non plus. Donc il y a déjà ça. Et donc il dit que, qu'en penseraient mes amis si je démissionnais ? Et puis alors, la deuxième chose, c'est La Croix lui a fait comprendre que l'Académie des sciences, très mauvais pour l'Académie des sciences.
Que là aussi, ça reconnaîtrait une erreur ou...
Oui, et puis que ça installerait la pagaille, enfin, et puis que ça créerait un précédent. Enfin bon, il y a tout un ensemble de... Voilà, De Broglie dit, finalement, j'ai décidé, je ne vais pas démissionner. Il y a un certain nombre d'échanges. Borel envoie une espèce de circulaire à l'Académie des sciences pour protester, quoi, pour expliquer sa position.
Il envoie à tous les confrères.
Oui, visiblement. De Broglie va s'en plaindre en disant, oui, alors monsieur Borel essaye d'agir pour obtenir ça, mais ce n'est pas normal et de toute façon, je ne démissionnerai pas.
then we'll come from the shadows.
Dernier acte, il y a une dernière lettre de la période où visiblement Borrell a renoncé, donc on est en novembre 1944, soit parce qu'il pense que le combat est perdu, soit parce qu'il pense que de toute façon bon, il a d'autres choses à faire. Il y a une dernière lettre de Breuil à Borrell qui est un monument d'hypocrisie, au moins d'hypocrisie rhétorique. Où, alors, De Breuil commence par passer de la pommade à Borrell en disant « Oui, alors, j'espère que cette histoire entre nous ne laissera pas de traces, parce que vous savez à quel point je vous admire et à quel point je sais que vous avez été un soutien indéfectible au début de ma carrière. » Enfin, voilà, il y a tout un langage. Et alors, le coup de pied de l'âne, dans la lettre, De Breuil dit « Oui, alors, de toute façon, vous savez, secrétaire perpétuel, finalement, enfin, vous vous épargnez beaucoup d'ennuis.
Je vous aide en restant.
Oui, voilà, exactement. C'est enfin, du style profiter de votre retraite. Il essaie d'agir à l'Académie. L'Académie des sciences attribue un prix à Borrell, une sorte de prix de consolation, dont j'ajoute tout de suite que Borrell ne l'a pas eu et je pense que, enfin, si jamais il a été consulté sur le fait que qu'est-ce que tu penserais si on t'attribuait ce prix-là, il a dû repousser l'idée avec indignation.
On peut ajouter qu'en tout cas aujourd'hui dans les statuts, un membre de l'Académie ne peut pas recevoir un prix de l'Académie.
Oui. C'est le dernier élément. Cette histoire n'a plus été évoquée par Borrell. Borrell est mort en 1956. Et il a été très actif jusqu'au bout en fait. Hein, donc.
Et quant à De Breuil, c'est bien plus tard.
De Breuil, c'est bien plus tard. Oui, mais de toute façon, De Breuil était beaucoup plus jeune. Hein, donc c'est.
Donc, lutte de pouvoir pendant quelques années, quoi.
Oui, enfin, lutte de pouvoir... Disons, c'est un mot quand même, soit faible, soit décalé, parce que c'est lutte de pouvoir, mais lutte de, disons, de présence dans un moment quand même très, 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 très particulier. Et pour le coup, même si, que je sache, De Breuil, enfin, comme beaucoup de gens, pas seulement de scientifiques, mais de gens de la période, je parle de la période de l'occupation, ont été quand même d'une extrême prudence dans leur expression publique. Les gens comme Georges Claude, que j'évoquais tout à l'heure, ça a quand même été rarissime. Des gens qui vraiment s'engagent, on pense, je sais pas, Alexis Carrel, des gens qui vraiment sont tout à fait mouillés de façon claire. Donc il y a une certaine prudence. Donc que je sache, De Breuil, au moins dans son expression publique, est resté prudent. Maintenant, il paraît absolument clair que De Breuil était bien plus en phase avec l'esprit du temps, disons, dans la France de Vichy, enfin la France de l'occupation. Alors je ne dis pas dans la collusion avec les Allemands, hein, mais en tout cas dans la France de Vichy, dans l'esprit du temps, que Borrell, qui clairement était classé comme un homme, comme je disais tout à l'heure, d'engagement radical socialiste, il était marqué.
Eh bien, Laurent, un grand merci pour cette tranche d'histoire. C'est assez passionnant, en fait. Hein.
Ah oui.
Une grande découverte, ça doit être très émouvant quand on découvre cet ensemble de lettres.
Vous avez entendu, j'allais dire bien sûr, Léonard Cohen qui chantait « La complainte du partisan » de Anna Marley et qui évoque l'occupation allemande. J'écoutais cette chanson en boucle quand j'étais étudiant.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.